You mean arguably? Yeah.
Kneel to your God.
In that case, it's a super
animal. No, but you know, it's funny that you mentioned that. I literally wasn't sure about that. He's gotten out of
If everyone could take their seats and we'll get.
Nouvel intervenant en venant micro, si tout le monde veut bien s'asseoir, nous allons commencer.
Okay, good afternoon, everybody.
Bon après-midi à tous. Il s'agit donc en ce moment du groupe, de la réunion entre le groupe des représentants des entités commerciales et du Conseil. Nous espérons avoir une très bonne discussion cet après-midi. Le Conseil a donc envoyé des questions au CSG, mais il semble que ces questions ont été perdues, donc nous y reviendrons plus tard. Les questions de logistique tout d'abord. Avant de passer, faire une présentation pour le scribe, disons que demain matin, entre 9h30 et 10h30, une réunion de suivi pour le RGPD. Jean Jeffrey sera là, il répondra à vos questions, donc ça aura lieu dans cette salle même à 9h30 demain matin. Ceci étant dit, peut-on commencer avec un tour de table, s'il vous plaît, Steve? Présentez-vous. Steve Del Bianco avec BC. Je suis avec NetChoice. Claudia Salit, BC, TNT. AT&T. Marc McFadden, je suis avec la connectivité Internet, l'échange de connectivité Internet. Avri Dorian, conseil. Tony Harris, avec l'association Internet Argentine. Tony Holmes, je représente BC ici, je suis vice-chair de l'unité constitutive ISP. Et je suis là pour notre président qui ne peut pas être ici. Mathieu Cher, conseil, Christy Spen, Conseil, Shirin Chalabi. Conseil, Becky Burr. Conseil, Sarah Dodge, pardon. Conseil, Brian Winterfeld. IPC, Wolfgang Kleinwarter, Webbing avec l'IPC. Merci à tous. Mathieu Scherz au micro, merci à tous. Je comprends, nous allons passer un peu de temps sur les RGPD. Donc je suggère que nous passions à cela tout de suite. Si je voulais tout d'abord expliquer l'organisation de cette réunion, dit Tony Harris, c'est une opportunité pour le groupe de représentants d'une entité commerciale de rencontrer donc le conseil de l'ICAO. C'est une réunion importante à notre ordre du jour. La diversité au sein du CSG nous permet de mettre en place un ordre du jour. Pour cette réunion spécifique, la question du RGPD est donc très très importante pour les trois unités constitutives. Donc nous avons divisé notre temps un peu différemment pour cette réunion. Normalement, nous avons 30 minutes par unité constitutive, mais à cause des inquiétudes au sujet du RGPD, nous sommes ici de façon unitaire pour vous parler de cela pendant 30 minutes. Ensuite, nous parlerons pendant 15 minutes chacun des unités constitutives pour vous parler de nos inquiétudes à ce sujet. Et pour commencer sur donc le RGPD, Steve DeBianco va commencer. Steve DeBianco au micro. Merci Tony et Matthew. Beaucoup d'entre vous étaient à la séance intercommunautaire sur le RGPD hier. Nous avons donc soulevé les questions et les inquiétudes à propos du RGPD. Nous pensons qu'aujourd'hui, il était intéressant de nous focaliser sur les inquiétudes au niveau du Conseil, pas forcément sur le côté juridique ou opérationnel. Nous avons donc exploré quatre grandes thématiques durant les dernières 24 heures. Il fallait demander au Conseil quelles étaient leurs préférences et leurs prises de conscience pour le processus. Et nous voulions savoir s'il y avait des directives pour proposer un système d'accréditation. Nous voulons aussi parler de la sélection du modèle qui va avoir un impact sur la communauté ou pas, sur notre travail. Notre travail étant de développer des RDS PDP. Si la communauté n'est pas sensibilisée au compromis, alors là, on va pouvoir aller de l'avant. Il va falloir que nous puissions donc savoir exactement quel va être le processus. Nous voulions aussi partager certaines des observations sur les risques à partir du monde externe. Donc on ne veut pas qu'il y ait une chance, encore une fois, pour la CAN de faire des erreurs. À la fin de l'année, les Nations Unies, quand ils vont se rassembler, il faut que l'on puisse en parler. Parce que ces décisions que nous allons prendre auront des conséquences pas forcément attendues. Donc, il y a quatre thématiques sur lesquelles nous voudrions coopérer entre ISP, IPC, etc. Les processus sont importants. Aujourd'hui, nous allons vous demander, poser des questions sur la gestion. On va vous demander où est-ce qu'on va? Quelle est la thématique que vous allez utiliser et qui conforme au statut. Nous avons parlé de cela à Abu Dhabi et nous avons parlé de la conformité avec John. Et lorsque tout sera finalisé par l'ICAN, est-ce que ce sera finalisé? Est-ce que le Conseil va participer? Y aura-t-il des commentaires? Est-ce que ça va être un accord avec les registres? Et j'en ai parlé avec Becky vendredi dernier. Peut-être que ça va être une politique temporaire de processus de politique. Nous aimerions connaître quel est votre sentiment sur ce processus. Ça va nous aider un petit peu à savoir qu'on va pouvoir vous donner nos opinions et comment on devra, si on doit nous participer rapidement ou pas. Nous aimerions donc en savoir un peu plus sur le processus. Becky au micro. le conseil est vraiment très concentré là-dessus et est très conscient des risques de non-conformité. Dans le cas où Louise devient fragmentée, nous faisons beaucoup de travail sur ce sujet. Où allons-nous à partir de ça? Nous en sommes encore une période intérim. Il y a des problèmes de conformité, il y a des problèmes de politique. Donc pour... Mais le résultat final, il serait qu'il faudrait que le RDS-PDP, les politiques RDS-PDP soient conformes au RGPD. Il faut trouver une manière d'atteindre un compromis. Il faut absolument que ce processus soit allégé pour qu'on puisse puisqu'on peut trouver des manières de tirer avantage de ce processus. Il faut qu'il y ait une obligation de conformité du RGPD. Donc comment est-ce que on va lancer ce processus et comment est-ce qu'on va être conforme au RGPD en amont? Comme il l'a été dit, l'ICANN a été très active dans sa participation avec les autorités et va continuer à le faire durant les semaines à venir. Le sujet est vraiment sur la table et nous avons besoin de vos informations, de vos contributions, de vos directives, mais nous savons qu'il y a un risque si nous n'obtenons pas ces contributions. Le Conseil comprend cette inquiétude. Nous voulons que les ADP soient à la table, nous voulons qu'ils participent pour que nous puissions avoir des directives pratiques. Une fois que les décisions seront prises, et pour cela, nous en sommes encore à une étape de discussion pour savoir exactement quelles sont les actions qui vont être mises en œuvre. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas encore décidées. Il y a des conséquences pour l'organisation. Le Conseil doit comprendre quelles sont les directives du département juridique de l'ICANN. Enfin, pour moi, je suis pratiquement sûre qu'aucune décision n'a été prise. Nous sommes encore donc au stade de la discussion et nous sommes tout de même intéressés par de recevoir vos contributions sur les mécanismes de conformité. Lorsqu'il s'agit du point le plus critique maintenant, donc, il faut que les ADP participent pour qu'ils comprennent que s'ils ne participent pas, il y a des conséquences. Il faut que les membres du GAC participent avec les ADP aussi. Steve Bianco au micro. Merci, Becky. Le Conseil est en train de considérer les différentes options sur le processus. Les options pour le mécanisme. Nous aimerions savoir exactement quelle solution vous avez choisi. L'option des politiques temporaires, mais ou autres. Donc, ces options de politiques temporaires auraient des implications de période de commentaires. Sur cela, nous n'avons pas de réponse pour l'instant, mais nous aimerions connaître ces options. Nous voudrions savoir comment nous pouvons nous assurer et contribuer pour nous assurer, encore une fois, que nos opinions soient reflétées dans le mécanisme. Et ce n'est pas un processus ascendant, c'est une déclaration de la conformité qui doit être suivie par la consultation du management. Et c'est comme ça que nous allons avancer. J'apprécie donc votre réponse. On va parler de la participation avec les ADP. Vous nous avez conseillé d'être très très amis avec nous, d'être amicaux avec le GAC. Quand le GAC, les membres du GAC nous voient arriver, ils s'en vont maintenant. C'est une question pour les ADP. Nous espérons qu'ils vont répondre avec des contributions spécifiques pour que nous puissions mettre en place un système d'accréditation spécifique. Ils doivent nous parler de la façon avec laquelle ils vont discuter avec les forces de l'ordre et les gouvernements. Nous voulons donc prendre le défi et donc les conseillers qui travaillent, les consultants qui travaillent au BC, IPC, ISPC, qui travaillent en ce moment sur une certaine architecture pour mettre en place un mécanisme d'accréditation, un système d'accréditation pour les gouvernements et les entités non gouvernementales puissent travailler. Nous attendons à ce que cela se fasse, disons qu'ils commencent dans les 24 heures à venir. Le GAC ne joue pas le rôle que vous leur avez demandé. Ils vont peut-être réagir à certaines choses, à certaines de nos commentaires. Mais nous voulons nous assurer que nous participions avec les bonnes réglementations. Nous voulons mettre en place un système et comment est-ce que nous puissions contribuer à ce processus et que nous ayons le support du personnel pour que le personnel puisse faire une bonne évaluation. Peut-être pourrions-nous faire des appels Adobe avec toutes les parties pour pouvoir travailler, pour pouvoir en arriver à une solution. C'est ce qu'on avait fait ce matin avec Yoran. Quand il y a une crise au sein de l'ICANN, et dans le passé, ICANN a bougé très très vite, de façon très décisive, avec le soutien de la communauté. Pense à la transition en 2014. L'ICANN a mis en place du support du personnel pour deux thématiques énormes. Nous avons pu avoir des réunions avec des grands groupes, et nous avons eu beaucoup de réunions, donc le personnel a établi des grandes avenues de communication et cela a vraiment été avantageux pour tous. Pour nous, par exemple, quand nous allons rentrer chez nous lundi, nous n'aurons pas cette solution. Donc vous avez besoin des contributions de toutes ces unités commerciales pour que vous puissiez, vous, au Conseil, réagir. Mais nous voulons être utiles quand il s'agit de l'accréditation. C'est très positif que vous vouliez bien travailler ensemble. Peut-être pouvons-nous créer des avenues pour que nous puissions nous rassembler. Je vais parler à mon propre compte et je vais vous dire que je m'attends et je pense que ICANN soutiendra cet effort. Et je ne pense pas qu'ils ne le soutiendront pas. Il y a peu de choses plus urgentes dans notre monde en ce moment. Donc vous pouvez être assuré que l'ICANN, le conseil et ICANN.org se focalisent là-dessus. Donc envoyez vos suggestions, vos propositions. Et vous savez, comme je l'ai dit personnellement, nous voulons obtenir vos meilleures contributions, nous voulons des idées sur les mécanismes les plus efficaces que nous pourrions mettre en place. Vous allez avoir des meilleures idées sur les ressources que nous pouvons utiliser pour mettre en place ce système d'accréditation. Donc nous attendons vos contributions. Steve De Bianco, pardon, au micro. Goran est venu nous voir ce matin et nous avons reçu les mêmes commentaires. Nous avons demandé du soutien du personnel et nous parlions seulement de support. Du support comme il en a été distribué dans le passé quand les groupes ont dû se retrouver et prendre des décisions rapides. Je pense que c'était une demande raisonnable et elle n'a pas été reçue de façon très positive. On parle du soutien du personnel, pas du soutien de l'idée. Yoran, j'ai toujours dit que si vous nous fournissez des informations, nous les ferions passer. Steve, non, il ne s'agissait pas de faire passer les informations, il s'agissait du fait que les IPC ont mené un effort pour essayer de trouver un système d'accréditation et que nous espérons, disons que dans les 24 heures à venir, nous allons pouvoir obtenir plus de détails. Ce que je demandais, c'est de continuer le momentum de cette discussion. Nous avons demandé s'il y avait du soutien du personnel qui pourrait nous être disponible. Donc, durant la semaine qui vient, ou la deux semaines qui viennent, pour que nous puissions discuter les spécifiques de ce système d'accréditation. Nous voulons du soutien du personnel au niveau technique, parce qu'il y a énormément de travail à faire dans les deux semaines à venir. Nous pourrons le faire, mais nous avons besoin du soutien du personnel. Johan, me semble qu'on ne m'a pas posé cette question spécifique. On m'a demandé si j'allais m'engager pour faire participer 12 personnes, quelque chose comme ça. Mais c'est à vous, la communauté, de me faire parvenir les informations sur ce que vous voulez. Je n'ai jamais dit que j'allais pas vous aider à faciliter quelle que soit la réunion, que ce soit des réunions personnelles ou sur Adobe. Brian au micro, je voudrais remercier Yoran de sa présence. Je voudrais faire du suivi sur les points dont Steve a parlé quand on a parlé du DPA et des ADP et de l'article 29. Nous avons déjà entendu le conseil et le personnel nous répondre à notre problème. Et ils nous ont demandé d'avoir des discussions avec toutes les personnes concernées. On nous a demandé de leur parler directement. Durant cette réunion, il y a eu des suggestions pour que nous puissions parler avec les représentants du GAC. Et en fait, nous avons eu aussi une réunion plus tôt ce matin avec Johan et nous avons pu parler aux représentants du GAC pour les États-Unis. Il nous a dit que c'était pas facile pour eux de faciliter ce genre de questions. Et les membres du GAC européens ne voulaient pas vraiment participer avec l'ADP, l'APD. C'est une chose sur laquelle nous n'avons pas beaucoup de détails. Nous ne savons pas exactement qui travaille sur l'article 29. Nous ne savons pas à quel APD s'adresse l'ICANN directement. Nous ne savons pas qui ils sont. Nous n'avons aucune idée de ce que l'ICANN leur dit ou de ce qu'ils leur répondent à l'ICANN. Nous aimerions peut-être obtenir plus d'informations. Est-il possible pour l'ICANN de faciliter une discussion pour nous? Parce que nous savons qu'avec le GAC, nous n'obtiendrons aucune assistance. Yoran, vous voudriez donc être dans la salle quand nous allons parler avec le groupe qui se préoccupe de l'article 29. C'est pas facile. Lorsqu'il s'agit de transparence, ce que nous vous avons envoyé, c'est ce que nous leur avons envoyé. C'est le livre de recettes qui a été envoyé en même temps. Nous l'avons envoyé aux APD et à vous. On parle de ça, mais je comprends votre frustration. Je comprends très bien, encore une fois. Mais je sais aussi qu'il est difficile de travailler comme cela. Quand il s'agit de votre relation avec vos lobbies à Bruxelles, lorsqu'il s'agit de l'article 29, sachez que moi, je dois représenter tous les points de vue. Et je comprends que vous puissiez être frustré. Je sais que c'est un cercle vicieux. Le groupe article 29 aimerait partager ou participer avec nous pour qu'on puisse mieux comprendre le problème en général. Mais les APD qui sont dans l'article du groupe, article 29, sont des personnes individuelles. J'essaie de vous être utile en vous disant participer avec eux, avec les APD individuels qui appartiennent donc à différents gouvernements. Ils sont payés de la même façon. Est-ce que je dois vous dire cela? À cette table, vous avez un expert qui sait très bien comment le système à Bruxelles fonctionne. Et peut-être que vous devriez utiliser cette compétence. Il est à côté de vous, Steve. Il est assis à côté de vous. Je le sais parce qu'il a déjà fait du lobby envers moi.
Genève.
Nouvel intervenant, je voudrais faire un suivi par rapport aux APD et par rapport au groupe article 29. Donc je comprends bien qu'il est dans l'intérêt de tout le monde dans la communauté d'encourager les gouvernements à contacter leurs APD et d'aller s'adresser aux APD. Mais il y a une chose qui pourrait être utile à ce moment-là, parce que on peut supposer que l'analyse du groupe de travail de l'article 29 sera effectuée dans le cadre d'un dialogue. Et donc, l'idée, c'est de faire un équilibre une fois qu'on aura fait l'analyse en ce qui concerne le RGPL. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est que si cette décision est prise sans qu'on ait toutes les informations par rapport aux utilisations et à l'intérêt public, à ce moment-là, la décision est prise avec un manque de clarté. Nouvelle intervenante. Donc, toutes les informations qui ont été fournies sont en ligne. Et cela inclut tous les points de vue qui ont été compilés. Nous avons également une liste dans l'annexe 1. Mais donc, tout le travail qui a été fait par la communauté pour avoir les histoires des utilisateurs, en fait, nous n'avons pas édité ceci. Tout a été communiqué dans le détail, sans commentaire du rédacteur. Au-delà de ça, l'IPC et l'ABC ont passé un week-end entier pour re-raconter l'histoire. Brian l'a envoyé aux APD et ça, c'est quelque chose qu'on a fait au 1er février. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, nous avons raconté tout ceci. Nous avons envoyé les histoires et peut-être qu'il y a des choses à renvoyer. Je ne sais pas si tout a été considéré. Il y aura nos micros. Alors, moi, j'ai demandé à toutes les parties de la communauté de le faire. Brian, je vous l'ai demandé, vous aussi. Donc, c'est pour être transparent. Alors, un point. Il a été très important pour moi et pour mon équipe d'être aussi transparent que possible. Je comprends parce qu'il y a un historique, parce qu'il y a des soupçons. Qu'il y en a qui croient peut-être que j'essaye de faire certaines choses en cachette. Mais les informations que nous avons envoyées, le dialogue que nous avons, vous le connaissez. Il n'y a pas de conversation qui se passe en huis clos. Alors après, bien sûr, la communication, ce n'est pas toujours simple. Alors, j'ai travaillé dans la réglementation. Et ça, je l'ai fait pendant 7 ans en Europe. Alors, les gens pourront dire que j'ai fait un mauvais travail. Et certains, d'autres diront que je me suis bien débrouillée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avant que les APD prennent une décision, la loi veut qu'eux-mêmes, ils fassent leurs enquêtes. Donc, ce n'est pas comme s'ils étaient dans une salle à rassembler des données. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils ajustent sur la base des faits. Ils ne sont pas là à attendre des informations qui leur soit envoyé. Et donc, j'ai énormément de respect pour les APD européennes. Et je dois vous dire, et j'en suis même persuadée de mon expérience, que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est justement de comparer les différents points de vue, les différents récits. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'agir aussi rapidement, pour publier les lettres, les mails, tous les récits, tout ce qui est sur le site web, pour que dans la communauté des APD soit au courant. J'ai reçu des centaines de lettres de votre communauté avec le même contenu au cours des quelques jours passés. Ça a été compliqué, mais nous avons tout publié. Donc, nous essayons de partager tout ceci, mais c'est important de partager ces informations. Nouvel intervenant. Justement, par rapport à la transparence, étant donné que vous étiez dans la réglementation, moi, j'aimerais bien savoir la probabilité de réaction des APD. Est-ce qu'ils vont dire l'ICANN a un modèle proposé qui va trop loin, ce n'était pas nécessaire de cacher l'identification des titulaires de domaine, etc. Nous, on part d'une hypothèse et on s'imagine que il y aura conformité au RGPD et donc que c'est positif. Et cela ne nous aidera pas si on pense que la proposition est allée trop loin, le modèle intérimaire va trop loin. Donc c'est ça, comment défendre l'argument comme quoi on est allé trop loin si on n'arrive pas à démontrer aux APD, donc... Voilà, nous avons le modèle proposé numéro 1, le numéro 2. Sont-ils tous deux conformes? Ça aurait été beaucoup plus utile. Et Par ailleurs, nous ne pensons pas que les APD vont nous dire quoi que ce soit, vont nous guider pour ce système d'accréditation. Donc, il nous faut absolument faire quelque chose. Il y aura nos micros. Je ne peux pas vous donner de probabilité. Moi, je suis reconnaissant pour tout le temps, pour tout le travail des APD qui s'occupent de cette question du WHOIS. C'est vraiment très difficile pour moi de vous donner mon point de vue là-dessus, de vous donner une opinion. La question du WHOIS, nous avons pu la traiter de manière politique et pratique au cours des quelques mois passés en Europe. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 6 mois, 8 mois. Peut-être qu'effectivement, on a dépassé, on est allé trop loin et on a prêté trop attention à cette question du WHOIS. Alors attendez, la dernière question, c'était quoi déjà? Moi, je souhaiterais que les membres du conseil d'administration comprennent bien que la CSG pense que le modèle qui a été sélectionné est trop conforme. Il y a 3 points sur lesquels on appuie en particulier, mais ne serait-ce que les adresses e-mail des titulaires de domaine. Si on n'explique pas ceci aux APD, on n'a pas pu en fait poser la question de savoir si, même sans ça, on aurait pu être conforme. Il y aura nos micros. En fait, il faut poser des questions. Donc, voilà comment on a procédé dans le livre de recettes. On a essayé d'identifier ce qui ne donnait pas lieu à un accord dans la communauté. Donc, on a une section, une partie, questions. Donc, c'est comme ça qu'on a présenté les choses. Donc, l'idée, c'était de poser des questions. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est comme ça qu'on a procédé. Cette semaine, nous avons eu également de nouvelles informations, de nouveaux points de vue, et donc nous allons prendre ceci en compte. Intégrer ceci au livre de recettes et envoyer la nouvelle version. Mais on voulait également leur donner un peu de temps pour regarder ce que nous avons soumis. Nouvel intervenant. Le modèle que vous avez proposé, s'il est conforme à ce moment-là, la question immédiate, c'est de dire, bon, très bien, merci. Maintenant, si les adresses e-mail des titulaires de domaine étaient sur le WHOIS public, est-ce que ça aussi, ce serait conforme? Je pense que la réponse serait rapide, parce qu'il est tout à fait possible qu'ils ne vont pas lire les 30 pages de tout le livre de recettes. Il y aura nos micros. Je serais très surpris s'ils ne prenaient pas ce document et s'ils ne le lisaient pas dans tous les détails. Je serais extrêmement surpris. Ça, c'est une probabilité à laquelle je peux vous répondre. J'ai beaucoup de respect pour leur travail. Nouvel intervenant. Est-ce que vous êtes tout autant confiant que lorsqu'ils auront lu le détail, ils vont revenir avec une explication totale sur toutes les questions? Il y aura nos micros. Ça aurait été bien d'avoir les APD ici avec nous pour répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont répondre. Mais attendez, il y a 8 mois, on ne le savait pas non plus. Et si on n'avait rien fait, on se serait retrouvé ici et vous auriez été encore plus en colère parce qu'on n'aurait même pas de discussion sur un modèle. On n'aurait pas les cas utilisateurs, on n'aurait pas eu l'analyse juridique, on n'aurait rien eu et on aurait eu les mêmes questions. Donc, nous avons fourni aux APD autant d'informations que possible. Nous avons un modèle. Nous avons un moyen de vous permettre de représenter vos intérêts. Donc, nous avons quand même beaucoup avancé. Mais nous en sommes toujours dans le même cercle vicieux. Pour moi, si nous n'avons pas de directive claire de la part des APD par rapport à ce qu'elles pensent, lorsque la loi entrera en vigueur, eh bien, il y a un risque énorme parce que le WHOIS sera fragmenté. Et ça, c'est vraiment une préoccupation que nous avons tous. Nouvel intervenant au micro. Lors du modèle intérimaire, vous avez un document qui est en fait le modèle du calzone, le modèle principal. Ensuite, deuxième question, donc tous les points de vue de la communauté par rapport aux éléments du modèle proposé. Et ensuite, on passe dans le détail, à savoir si les adresses e-mail anonymisées doivent être substituées aux adresses exactes. Donc, effectivement, nous avons indiqué dans la conversation en leur envoyant ce document et le modèle que les points de vue n'étaient pas tous les mêmes. Et donc l'idée, c'était vraiment de leur demander de nous aider là-dessus. Nouvel intervenant. Oui, et si la réponse est que certes, ça suffit, nous souhaitons quand même la réponse. Est-ce que c'était nécessaire? Donc, moi, je vous demande vraiment de faire tout votre possible pour que si la réponse est oui, le modèle suffit, maintenant, la question que vous devez poser, c'est est-ce que c'est nécessaire? Je vous demande vraiment de poser cette question et de nous obtenir une bonne réponse. En ce qui concerne le risque, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, il y a un risque sur le PDP-RDS. Et si on n'arrive pas à un compromis et à un consensus, surtout lorsqu'on considère la structure de la GNSO, pour la CSG, nous faisons partie d'un quart du processus. Et donc, si dans le PDP, nous sommes la seule partie du processus qui s'intéresse réellement à un changement, par rapport à ce modèle intérimaire, on n'aura pas de consensus. Donc, il faut que le Conseil sache que les représentants des entités commerciales souhaitent un modèle qui soit qui ne plaise pas, en fait, aux parties contractantes, à la CSG, à la NCSG. Parce que si on a une politique qui est temporaire, eh bien, on peut la renouveler pendant un an ou plus. Et à ce moment-là, on pourra peut-être restaurer les adresses. Donc, cela veut dire qu'on se retrouve dépendant dès qu'on part avec un modèle intérimaire. Alors, vous avez parlé de ne pas plaire à tout le monde, et ça, en général, ça marche très bien, apparemment. C'est évident. Nous sommes en train de travailler avec les GNSO pour savoir ce que nous pouvons faire avec le PDP et le RGPD. Ça ne dépend pas de nous. Alors, peut-être que vous pourriez réfléchir à la chose suivante. Vous avez parlé tout à l'heure du modèle, mais c'est un petit peu dans la même veine. À votre avis, à l'avenir, quelle serait votre préférence? Est-ce que vous allez arrêter, vous réfléchir et repartir? Est-ce que vous allez perdre certaines choses? Ce serait utile d'avoir cette conversation. Je comprends tout à fait ce que vous me dites, votre suggestion. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a fait un pas en avant, c'est très difficile de revenir en arrière. Je comprends tout à fait. Nouvel intervenant. Alors, vous aviez 4 points, Steve. Donc, on est toujours au point numéro 3, n'est-ce pas? On pensait que les 40 minutes, en fait, les 40 premières minutes seraient sur le RGPD. Donc, on est à 40 minutes. Alors, le quatrième point, c'était donc un petit peu l'externe par rapport à cette entité. Il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient présents au FGI de Genève, qui comprenait bien les entités multilatérales et donc internationales. Et donc, si notre solution intérimaire, si la communauté est contente, et d'ailleurs, c'est ce qui me semble qui est ressorti de la séance d'hier, eh bien, cela ne nous aidera pas. Si les mêmes gouvernements qui sont derrière les APD sont contents par rapport à ce modèle. Après, eux, ils sont vraiment pas contents en matière d'application de la loi, de protection des consommateurs, etc., et de cybersécurité. Il y a des risques qui sont associés à une surconformité qui frustre l'accès que les gens ont aujourd'hui. Et je comprends bien que le monde change et qu'on en arrive à un accès par niveau, je le comprends, mais il faut faire attention. On ne veut pas se retrouver dans une situation où la CAN a travaillé trop vite. Vous le savez, il y a certaines assemblées générales où la CAN est une cible. Alors, l'idée, c'est quand même de faire attention. Ce n'est pas la peine de mettre une autre cible sur laquelle tirer parce qu'on a bâclé le travail. Nouvelle intervenante. C'est un objectif que nous avons tous, nouvelle intervenante. Oui, mais c'est un risque le risque, ça veut dire qu'on n'est pas conforme en mai. Et ces risques, ils existent. Mais l'équilibre des risques, c'est également de trop en faire en matière de conformité alors qu'on n'en avait pas besoin. Et cela veut dire que nos critiques pourront en profiter. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent ajouter quelque chose par rapport à ça ? Il y aura nos micros. Je comprends ce que vous dites, mais j'aimerais retourner un petit peu les choses. Les risques, ils sont toujours présents. On peut continuer de débattre là-dessus, mais revenons à il y a 4 ans, lorsque le RGPD a commencé, quand cette discussion a commencé. On était où ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, la question de l'équilibre du droit de la protection de la vie privée et du droit de l'accès aux informations. Nous n'avons pas de politique par rapport à ça. Où sont les autres domaines dans lesquels il faut ajuster ces choses ? Et donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne vit pas dans une bulle. On fait partie du monde. Et de plus en plus, on voit des propositions de loi dans le monde entier. J'en ai parlé ce matin. On reçoit d'autres propositions. Et donc, nous devons mettre en place des politiques. Nous travaillons à l'interne pour voir un petit peu comment ça se passe, de manière à pouvoir vous informer. L'idée, c'est de ne pas interférer dans la partie politique, mais il faut au moins être au courant de ce qui se passe. Parce que quand je regarde, il y a 4 ans, ce qui aurait dû être fait, j'y étais pas là, c'était en fait de bien comprendre l'implication du RGPD il y a 4 ou 5 ans. Et à ce moment-là, l'idée, c'était d'être dans la salle lorsque la législation a été proposée à l'Union européenne, aux dirigeants politiques. Parce que ça a un impact sur le système WHOIS, même si on n'est pas impliqué dans la politique. Parce que maintenant, on est sous la torture, on est au pied du mur. Et donc, je crois qu'il faut éviter ce type de situation. Ce n'est pas le seul moment où on aura ce type de risque. Nouvelle intervenante, Susan au micro, je fais partie de l'ABC. Il y a 5 ans, le Conseil, en fait, s'en est occupé. Fadi s'en est occupé. Et il savait bien ce qui allait se passer. Il savait tout à fait que ce n'était pas durable. Nous avions tous compris ceci il y a 5 ans. Même il y a 20 ans, on le savait. En tout cas, il y a 10 ans, c'est sûr. Le conseil d'administration, en fait, Fadi, a lancé le EWG et l'ICANN a payé 12 ou 15 personnes, je ne sais plus, ainsi qu'un membre du conseil d'administration, c'était Chris Despain, qui a travaillé donc à ce groupe de travail et il nous a demandé de réfléchir et de faire un rapport. Et c'est ce que nous avons fait. Et ensuite, ce rapport a été donné au conseil et on a demandé un PDP. Il y a beaucoup de bons principes. Est-ce que le rapport de l'EWG était parfait ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un cadre de travail et des principes de travail ? Et est-ce que ce rapport représente un bon modèle pour l'avenir, avec des ajustements, avec des modifications, avec conversation avec les APD, etc. Eh bien, en fait, rien de tout ceci n'a été fait. Nous avons perdu cette opportunité. Nous n'avons pas terminé le travail qui avait été lancé il y a 5 ans. Donc certes, on a eu le PDP RDS et nous avons vraiment essayé d'en arriver à un consensus, mais ça n'a pas été assez rapide. Donc il y a quelque chose qui doit changer. Et je sais, Yoran, que vous n'étiez pas là il y a 5 ans, mais le travail a été lancé et Chris Despain était avec moi. Chris Despain au micro. Je suis très heureuse, Suzanne, que vous ayez mentionné ceci. Et je crois que les applaudissements qui viennent, en fait, étaient pour nous deux. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'ai passé 2 ans de ma vie là-dessus et ces 2 ans, je ne les aurai pas demain. Et nous avons passé pas mal de temps là-dessus. Vous savez, c'est un petit peu triste d'entendre les gens dire « oui, c'est très bien ». Mais c'était pas vraiment dans le cadre du processus, etc. Il y a eu énormément d'informations très utiles dans ce rapport d'experts et il faut être très clair là-dessus. Il y avait beaucoup de personnes de la GNSO, beaucoup de personnes de la CCNSO. Et bon, voilà. Eh bien, voilà où on en est. Mais la clé de tout ceci, et je comprends tout à fait le problème. Le problème de peut-être être trop conforme, je le comprends. Je comprends aussi la nécessité de revenir un petit peu en arrière. Mais je vais vous présenter une petite hypothèse. Si vous avez raison, et si on ne reçoit aucune ligne directrice de la part des APD, eh bien, cela veut dire que, en tant que ICANN, nous devons, du point de vue juridique, avoir la démarche la moins risquée, la plus sûre du point de vue juridique, parce que nous sommes responsables. Donc, les bureaux d'enregistrement, les opérateurs de registre à l'ICANN, je pense qu'ils sont responsables du point de vue juridique. Mais donc, nous devons prendre en compte les risques et nous devons être en tête de cette initiative de faire attention aux risques. Donc, il nous faut absolument nous dire, voir un petit peu ce qui va se passer. Si, par exemple, nous faisons telle chose, est-ce que c'est acceptable? Et si nous avons, au contraire, des directives des APD, je comprends bien que ces lignes directrices devront peut-être être ajustées, il va falloir peut-être demander des clarifications, je le comprends, tout à fait. Personne n'est en train de vous dire qu'on reçoit les lignes directrices des APD et c'est terminé. Non, le dialogue continue. Alors, la situation la pire, ce serait qu'on ne comprenne pas les lignes directrices. Alors, nous allons poser des questions de suivi, c'est sûr. Mais en fin de compte, c'est la décision nous appartient et c'est à nous qu'appartient le risque aussi.
Steve DeBianco, je vais passer la parole à... Non, Mathieu, je suis au micro. Oui, je vais passer la parole à Tommy, à Tony, parce qu'il y a d'autres questions à discuter. Johan, attendez deux secondes. Je lis une conclusion en ce moment. Quand on parle des modèles d'accréditation, sachez qu'on en reparlera avec l'APD. On va essayer de voir s'il y a d'autres alternatives. Mathieu Scheer, je pense que maintenant nous sommes quand même à un meilleur endroit, mieux qu'avant. Je pense qu'une des choses avec lesquelles nous sommes venus à cette réunion, c'était un désir de montrer au bureau, au conseil, qu'il y avait une volonté de notre part, de la communauté, de vous aider à avancer, les avancées avant des. Nous sommes donc exprimés sur ce sujet. Il y a aussi un niveau d'inquiétude de la part de certains membres de la communauté sur ce sujet. Je pense que ce niveau d'inquiétude est donc très bien construit par toutes les parties. Cela va nous aider à aller de l'avant. Merci donc de votre attention. Nous allons passer maintenant vers les questions particulière de la part des trois unités constitutives très diverses. Le premier groupe qui pose une question et qui veut discuter avec vous, c'est le BC. Et je peux vous dire que nous avons 15 minutes et vous savez que les ISP aussi veulent parler après. Donc gardons la thématique, gardons le délai de 15 minutes. Steve DeBianco, je pense qu'on va utiliser 5 minutes pour le BC et on repassera par vous. Quand on parlait des contraintes budgétaires, sachez que Claudia a fait un point hier durant le forum public. Elle a suggéré qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour faire réduire des budgets de centaines de milliers de dollars. Donc, pensez à la révision structurelle que fait le Conseil qui est en cours. Donc, si on va passer dans une année à peu près la troisième révision du GNSO et j'aimerais bien savoir quelles sont les références que vous utilisez pour faire sa révision et qu'est-ce que dit le GNSO à ce sujet. Est-ce que le GNSO a un but continu? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des changements structurels ou opérationnels? Et si c'est le cas, est-ce que cela avait amélioré son efficacité? Donc, le vocabulaire est dans les statuts depuis très longtemps. Mais est-ce que on parle si on parle de changement, est-ce que ça va améliorer l'efficacité du GNSO? Parce que le GNSO doit générer des politiques. On a eu une séance entière samedi dernier là-dessus. Je pense que de là est sorti beaucoup d'observations internes et externes sur les processus de PDP qui ne fonctionnent pas assez. Donc c'est un problème d'efficacité. Nous allons vous demander que lorsque vous mettez en place des RFP, que nous puissions donc avoir une grande discussion et que l'on puisse trouver un expert qui soit adéquat pour établir, évaluer cette efficacité. Pour qu'il y ait en place un cadre de travail pour explorer donc les politiques et la structure. Je sais ça, je parle de cela parce qu'en ce moment on parle de contraintes budgétaires. Je pense que cela va coûter de l'argent. Mais donc le budget pour la révision du GNSO mérite un expert qui puisse comprendre les processus et qui puisse amener des recommandations pour améliorer les choses. C'est tout ce que nous avons à dire sur ce sujet. Nous sommes heureux d'écouter vos réactions ou de passer au prochain sujet, comme vous voulez. Avril Doria au micro. Oui, je pense que c'est dans le plan de l'AOC pour qu'on puisse avoir une bonne conversation avec les NSO et les parties prenantes et l'unité constitutive sur ce qui va être fait. Et nous devons bien sûr trouver un expert pour pouvoir nous aider à ce sujet. Chris Dispen, oui, je pense que Yoran veut parler, mais tout d'abord, je veux dire que je suis d'accord avec vous, mais j'ai une question pour vous. Dans toutes ces séances, tout le monde va vous dire que la GNSO ne fonctionne pas forcément bien. On dit que la GNSO est cassée, si vous voulez. Et comment pensez-vous que vous pouvez donc vous baser sur une révision indépendante? Pourquoi ne pouvez-vous pas lancer un PDP propre au GNSO? Parce que vous savez, vous avez besoin de réformes. Pourquoi ne lancez-vous donc pas votre propre PDP sur la réforme du GNSO? Le CCNSO l'a fait. La CCNSO a fait un PDP sur le changement de ses règlements. Je ne sais pas, compliqué comme vous, mais bon, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire et faire votre propre PDP encore une fois? Nouvel intervenant, oui, les choses sur lesquelles on a discuté samedi ressemblaient beaucoup à ça. Gardez à l'esprit que les révisions structurelles qui sont faites, et la dernière, la plus significative, a été faite en 2009. Et à ce moment-là, le Conseil a accepté un rapport qui a changé la structure de vote au sein de la GNSO. Donc, ces grandes lignes viennent toujours de l'extérieur, si vous voulez bien me comprendre. Et le processus, ces genres de décisions devraient venir de l'intérieur. Nous allons donc procéder des deux manières. Nouvel intervenant, Tony Holmes au micro. Si je pouvais revenir sur 2009. L'acceptation de cette structure est venue aussi avec un engagement de révision dans les deux ans et ça n'a pas été fait. Johan, au micro, maintenant le Conseil va s'endormir parce qu'ils vont m'entendre dire la même chose beaucoup de fois. Si nous sommes fatigués de faire passer le même message à tout le monde, et c'est le cas, parce que nous voulons assurer que les informations ne soient pas perdues. Et il s'agit là du budget. Chris, vous pouvez aller vous coucher, c'est bon. J'ai déjà partagé ces informations. On voit un budget stagnant. Les financements de la CAN sont, les fonds qui rentrent dans la CAN sont sur une, en stade de stagnation. Donc il faut regarder les choses d'une façon différente. Moi, je suis responsable du processus. Nous devons donc utiliser ce processus de dialogue avec la communauté. Nous avons reçu à peu près 150 commentaires sur le budget de la part de la communauté. Ces commentaires vont vers le conseil, vont vers le ORG, reviennent vers le conseil et sont éventuellement approuvés par la communauté habilitée. Mais voilà le problème. Il y a deux ou trois choses qui sont passées cette semaine. Tout d'abord, il y a des choses que je dois clarifier. Il y a eu des discussions sur le personnel, que les réductions n'avaient pas été faites de façon égale. Je dois vous dire que si vous regardez le soutien au transport, au voyage, nous avons une augmentation de 12% et nous... Il y a aussi des coupures au niveau du ORG, du budget, d'à peu près 8,5 millions de dollars. Nous avons donc une baisse de 6,5%. Nous avons donc un grand problème. 80 à 85% du budget est fixé. C'est le résultat de politiques. C'est le résultat des décisions prises par la communauté, par l'organisation ou par le conseil. Les politiques, les statuts qui vont de 40 pages à 350 pages des fois. Mais nous n'avons pas de bon processus pour continuer cette discussion sur ces 85, 80, 85%. Nous venons juste de commencer. Nous parlons des révisions. Et l'année prochaine, la révision de leur redevabilité va coûter 700 000 dollars de plus. Et cela va être ajouté au budget. Nous avons en ce moment 8 révisions en cours. Le montant de temps que nous passons dans la révision est énorme. Et dans les années à venir, il nous reste encore il y aura une ou deux révisions. Donc, c'est pas équilibré. Il est peut-être donc temps pour que quelqu'un jette la première pierre et commence une conversation sur l'alignement des révisions. Il faut discuter aussi la longueur des réunions. Est-ce que nous sommes efficaces durant ces réunions? Est-ce qu'il y a une bonne rotation des réunions? Et je fais juste passer l'information qui m'est parvenue. C'est une conversation qui commence, mais vous avez été très bon cette semaine. Vous avez commencé à parler de cette thématique. Et je ne juge pas, mais il y a beaucoup de choses que nous devrions vraiment vérifier en allant de l'avant. Parce que l'importance, ce n'est pas les 10, 15% qui restent. C'est pour ça qu'on me dit, pourquoi vous avez coupé 10 000 dollars? Non, nous vous parlez des 80, 85% qui restent. Parce que le monde a avancé. Voilà, merci. L'autre intervenant, y a-t-il d'autres commentaires sur la révision Genesso? Non? Bon. Nouvel intervenant, nous allons passer à l'unité constitutive des représentants de la propriété universelle, intellectuelle, pardon. Brian, au micro. Donc, nous voulions vous remercier de nous donner l'opportunité de commenter sur le modèle Calzone. Nous sommes encore en phase de digestion du livre de recettes. Mais nous avions quelques questions à vous poser. Nous savons que nous avons très peu de temps. Nous comprenons que vous avez un ordre du jour très, très, très serré. Nous voulions parler de l'accès agrégé des données. Et nous savons qu'il y a eu une réunion. Nous avons une réunion avec les personnes intéressées. Nous avons pu faire des commentaires et nous avons expliqué qu'il y avait une importance pour les données dans le monde de cybersécurité pour que les plateformes soient sécurisées pour les utilisateurs. Nous avons parlé de l'adaptabilité et de l'intégration des données Et puis là, nous voulions savoir par rapport au Conseil, quels sont vos sentiments. Et nous voulons parler du modèle intérim et nous voulons savoir exactement ce que cela veut dire d'être accrédité et combien de data peut-on accéder, à combien de data peut-on accéder. Un nouvel intervenant au micro, la réponse est donc n'est pas encore complète. Nous ne savons pas exactement quand la mise en œuvre du WHOIS et sa version non publique va être mise en place. Non, la discussion dont que nous avons eue avec vos groupes auparavant au sujet du modèle Calzone était celle-ci. Nous étions concernés par le mot « banque », donc en gros. Et si nous avons bien compris, le WHOIS, en gros, n'est pas quelque chose qui est documenté ou qui est dans les accords, qui est requis sous les accords de la ICANN. Nous avons compris qu'il y avait des requêtes, des recherches uniques au port 43 et à d'autres endroits par des tierces parties avec des data, des données qui sont collectées et qui sont offertes en tant que service. Nous sommes à un point où nous savons que dans l'avenir, il y aura des choses qui seront derrière les firewalls. Et cette semaine, nous devons essayer d'inclure un 6 points de divergence parce qu'il y a des différences et des changements qui seront faits dans le nouveau modèle. Et que les choses donc vont changer. Les parties qui ont un but légitime pour accéder les données puissent le faire alors qu'ils ne pouvaient pas le faire auparavant. Un nouvel intervenant. Oui, cela est très important. Nous apprécions vraiment votre réponse et votre concentration sur ce sujet. C'est important pour l'organisation. Il y a une organisation qui a 500 clients, qui inclut aussi des gouvernements, des agences comme le FBA, le FBI et des choses comme ça qui s'appuient sur ce genre de travail. Donc, nous apprécions votre attention. Nous avons aussi parlé des accréditations et de quoi ça aura l'air une fois qu'on sera de l'autre côté du mur. Et on en a parlé avec la Chambre des parties contractantes. Ils ont indiqué que au contraire de ce qu'on avait entendu dire du personnel de la CAN, qu'une fois qu'on est accrédité, on aura accès à toutes les données, et alors qu'elles seront plus limitées. Donc, ces accréditations, ce serait très limité. Il pourrait y avoir des requêtes visées domaine par domaine, domaine de données par domaine de données. Nous, ça nous inquiète énormément et nous voulons surtout souligner ces problèmes de divergence. Il est très, très important parce que cela est lié à ce qu'on appelle la question « Who is bulk ?» Nouvel intervenant au micro. Pour être très clair, nous avons dit que nous avons toujours été pour l'accès à toutes les données, toutes ces données. Nous savons qu'il pourrait y avoir une approche différente. Nous avons assumé qu'une fois que vous serez de l'autre côté du mur, si vous voulez, vous aurez un accès et vous pourrez faire requête par requête, vous pourrez avancer requête par requête. Il faudrait que les parties accréditées puissent avoir droit aux informations. Donc, mais c'est un dialogue que nous pensons être très pertinent. Nouvel intervenant. Oui, je suis heureux. Brian au micro. Oui, je pense que c'est bon qu'on soit en accord. Je voudrais passer la parole à mon collègue pour la prochaine question. À ma collègue, pardon. Une autre question pour le Conseil, dit la nouvelle intervenante. Une fois que les statuts sont établis et que l'ICANN va surveiller ou va contrôler la conformité et mettre en exécution la conformité et par rapport à quel que soit le modèle qu'il va utiliser, un nouvel intervenant. Il y a eu une discussion au Conseil cette semaine avec plusieurs différentes façons, options pour la conformité, quel que soit le modèle qu'on va utiliser. Il y avait pour vous dire s'il y a des spécifications temporaires sous les accords qui sont en cours. Là-dessus, il y a toujours des discussions. Nous comprenons qu'il y a des complications lorsqu'il s'agit des contrats, surtout avec le bureau d'enregistrement, les opérateurs de registre. Mais tout le monde est d'accord. Beaucoup d'entre eux ne seront pas conformes au RGPD. Donc, c'est une discussion qui est en cours et qui va continuer durant les prochaines étapes. Mais les spécifications temporaires, c'est peut-être une option pour nous, pour mettre les choses en application. Mais Jamie Hanlon a un groupe au sein de la CAN pour essayer de s'assurer que la conformité avec telle mesure peut être assurée et comment l'approche va se faire. Johan Mabi au micro. Quand le modèle sera terminé pour que l'ICANN donc soit conforme et que nous le mettions en application, bien sûr, nous devons passer le bon message pour mettre à exécution notre contrat en accordance avec ce modèle. Je pense qu'on est tous d'accord dans ce groupe que cela est important. C'est pour ça que nous regardons différentes initiatives. Le Conseil est très engagé dans ces discussions. Si nous mettons en place un modèle et que nous ne le suivions pas, ce ne serait pas une bonne solution pour continuer par rapport au RGPD. Nouvel intervenant micro. Donc, pour ajouter plus d'informations à ce que JJ a dit, Charine au micro, le Conseil donc a toujours dit que le modèle intérim posait des problèmes de conformité. Et la responsabilité a donc été déléguée au PDG. Mais nous suivons ça de très près. Il nous fait des mises à jour très souvent. Et je soutiens le travail que fait le PDG. Lorsqu'il s'agit de la mise en application ou de ce modèle d'intérim, cela requiert une décision du Conseil. Nous n'en sommes pas encore là. Nous en avons beaucoup parlé cette semaine. Nous avons examiné plusieurs alternatives. Nous attendons les réponses des APD lorsque nous aurons les informations. Nous prendrons une décision. Nouvel intervenant au micro. Merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, il semble que vous avez au moins une idée de ce que vous allez faire. Pouvez-vous nous expliquer les délais? Chérine, les délais dépendent bien sûr de la réponse des APD. C'est la réponse que je peux vous donner à votre question. Nouvel intervenant, nous avons discuté avec les APD et nous attendons avoir des résultats dans la semaine du 28 mars. Et malgré les inquiétudes de Steve, nous espérons qui pense qu'on ne va pas recevoir des avis ou des conseils, nous espérons quand même pouvoir travailler sur un modèle et nous aurons une meilleure idée sur la démarche à suivre. Et là, nous pourrons peut-être choisir un modèle pour mettre en place les spécifications temporaires. Mais jusque-là, nous pensons que nous allons trouver des obstacles si nous décidons d'une démarche à suivre. Teresa, voulez-vous dire aussi que nous allons venir vous parler de cela à 16h45 aujourd'hui dans la réunion, lors de la séance de votre groupe. Nouvel intervenant, oui, vraiment merci, nous apprécions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Chez une autre, Brian au micro, oui, je demande aux autres membres de venir au micro s'ils ont une question, mais en attendant, je voudrais poser cette question. L'organisation a l'accès aux données WHOIS. Et est-ce qu'il y a des raisons internes pour lesquelles vous avez besoin d'avoir l'accès à ces données? Je ne vois pas que cela est donc nécessaire au sein d'un modèle intérim. Donc, je voudrais avoir une réponse là-dessus. Joran, au micro. Oui, je peux vous expliquer. Nous avons un projet interne qui va nous permettre de travailler et de comprendre mieux le marché des données. Donc, à ce sujet, nous avons aussi, là-dessus, nous avons accès à, aux données comme tout le monde, pas plus, pas moins. Il y aura donc en place un modèle d'accréditation. Nous devons être conformes à ce modèle aussi. Nous sommes au même niveau des autres organisations qui ont besoin d'avoir accès à ces données et qui ne font pas partie des forces de l'ordre. Peut-être David a-t-il un autre commentaire. David, au micro. Oui, nous avons un projet primaire maintenant et ça s'appelle le projet DART. Et les informations dans le WIS dont le projet DART se préoccupe en ce moment, c'est les informations au sujet des titulaires de noms de domaine. Cela pourrait être considéré comme la portion publique des données qui serait donc en dehors de la couche d'accès. Il y a eu des discussions, du moins dans mon groupe, et il y a eu d'autres projets de recherche qui pourraient nous aider à rassembler les informations pour essayer de faire une enquête plus approfondie. Merci.
Yes, I am a rhino.
Oui, excusez-moi, je suis effectivement malade. J'ai mal à la gorge, donc ne vous mettez pas trop près de moi. Donc, mais bon, tout accès que nous avons obtenu, c'est en fait par le même biais que d'autres, que les mécanismes que les autres pourraient utiliser pour avoir accès. Et donc, on appliquerait la même accréditation pour le modèle sécurisé. Nouvel intervenant, y a-t-il des questions encore ? Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Mark Trachtenberg, membre de l'IPC. Yoran a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, Becky l'a dit aussi, qu'il faut aller s'adresser aux APD, surtout en ce qui concerne le processus d'accréditation, mais également sur d'autres aspects du modèle provisoire. Et donc, j'aimerais mieux comprendre quel est notre objectif. Il y a 27 APD en dehors de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut aller parler aux 27? Est-ce qu'il faut parler aux 1000 APD qui sont au niveau inférieur? Est-ce qu'il faut qu'on ait une lettre à envoyer aux APD? Si les APD ne sont pas d'accord, j'aimerais comprendre quel est l'objectif de tout ceci. Et est-ce que, qu'on dit les APD, comment est-ce qu'on recommunique ce message? Quel est l'objectif définitif dans tout ça? Il y aura nos micros. Je crois que vous avez un expert. Je ne vais pas vous donner une leçon pour vous adresser aux autorités de réglementation et des leçons dans le lobbying. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans cette salle, qui sont professionnels, qui savent exactement comment ces choses se font. Mon travail, c'est par le biais du groupe de l'article 29 de vous donner un petit peu la vision globale. Mais personnellement, je ne peux pas vous expliquer comment faire ceci. Vous avez des gens qui sont là pour répondre à ces questions. Je crois qu'il serait approprié de leur parler. Nouvel intervenant. Je voudrais juste clarifier. Je comprends bien ce que vous dites. Mais même si on arrive à savoir comment parler à ces autorités de réglementation, qu'est-ce qu'on doit vous donner pour que vous changiez le modèle? Il y aura nos micros. Ce qui est important, c'est que si vous pensez que ces autorités n'ont pas les informations, eh bien, il faut trouver un moyen de leur fournir les informations. Le groupe article 29 fera son travail, fera l'équilibre entre les différentes informations et ensuite, ces informations nous seront relayées. Ce n'est pas à moi que les informations vont être adressées, c'est à tout le monde. Donc, même chose, vous donnez les informations et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ça fait déjà longtemps que je vous demande de le faire. Nouvel intervenant, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on vous redonne à la suite pour que vous changiez le modèle? Il y aura nos micros. Si vous avez une réponse très claire des APD, eh bien oui, donnez-la nous. Nouvel intervenant au micro. Je crois que nous avons dépassé nous sommes presque à la fin des 15 minutes pour cette partie, donc je ne sais pas si on prend encore une question. Nous n'avons pas le temps pour une question supplémentaire, malheureusement. Je suis sûre que tout le monde comprend bien qu'il y a une concurrence au sein de l'entité, le groupe des représentants des entités commerciales. Je comprends bien qu'il y a concurrence, mais on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Alors, si vous voulez poser une question, je vous donne 30 secondes et c'est tout. Nouvel intervenant au micro. C'est un commentaire par rapport à la vision. Lorsque les marques partent, nous devons expliquer ce qui s'est passé. Nous avons un modèle intérimaire qui traite des besoins, mais nous n'avons pas les besoins de l'accès aux whois. Donc, dans le domaine du hameçonnage et de la fraude. Nous avons un modèle qui s'occupe d'un problème, mais le modèle ne s'occupe absolument pas de nos problèmes à nous. Et nous, on nous dit, allez parler au GAC. Donc, quand on rentrera chez nous, on voudrait pouvoir dire, nous sommes d'accord avec le modèle multipartite, l'ICANN est crédible, même si la première série était un peu compliquée, mais en fin de compte, il faut vraiment que cette partie du travail soit prise autant au sérieux que l'autre partie des parties contractantes. Il y aura nos micros. Les parties contractantes ont sans doute exactement le même point de vue que vous. J'aimerais quand même le mentionner, que nous n'avons pas en fait pris leurs préoccupations en cours. Et donc, eux aussi, ils sont mécontents. Tony au micro. Bon, je pense que tout le monde va être très déçu parce qu'on ne va pas parler du RGPD pour les ISP. Alors, l'unité constitutive des fournisseurs de services Internet et de services de connectivité, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect de connectivité de l'Internet. Il y a également une attente, je crois, de la part des utilisateurs finaux parce qu'ils nous font confiance, de manière à ce que nous les aidions à garantir la sécurité et la stabilité de l'Internet. Et donc, un des enjeux actuels auxquels est confrontée la CAN, c'est la question du roulement de KSK. J'ai avec moi David, je suis très heureux de le voir ici parce qu'il s'intéresse à cette question également. C'est une question que la communauté des FSI essaye de traiter avec le personnel de l'ICANN. Donc voilà, c'était pour l'introduction. Maintenant, je vais demander à Marc d'en parler davantage. Marc McFerden, au micro. Moi aussi, je suis content de voir David avec nous. Mais même s'il n'est pas à côté de moi, c'est très bien ça. Alors, je voudrais commencer par dire que je vais prendre quelques minutes pour réfléchir sur certaines des applications des FAI en ce qui concerne le roulement de clés. C'est donc effectivement complètement différent de ce que l'on disait avant. Et ensuite, j'aimerais ramener ceci au niveau du Conseil et parler des implications du retard de roulement de clés. Il faut que le Conseil en soit conscient. Il y a deux points très importants et j'en parlerai à la fin. Mais pour commencer, le Conseil connaît bien tout le travail du bureau technologie. La recherche qui a été faite lors de l'été et de l'automne, il y a eu donc un retard et David s'est adressé à la communauté des FSI et donc les FSI sont vraiment très intéressés justement et souhaitent être impliqués parce que si ça ne fonctionne pas, c'est notre téléphone qui va sonner puisque c'est nous qui avons l'assistance, les centres d'assistance. Donc, si le roulement se passe et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous faisons partie de la communauté qui sera la plus affectée. Alors, ceci étant, je dois vous dire que le bureau technologie et la communauté des FSI ont énormément collaboré et j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je parle au nom de toute la communauté des FSI. J'apprécie énormément tout ce qu'a fait le bureau technologie pour nous aider. Et ce bureau technologie a fait beaucoup de recherches. Cela a donc mené à ce retard. Et nous sommes d'accord. Cette décision de retarder le roulement était bien fondée. Parce qu'il fallait faire davantage de recherches, nous sommes d'accord. Et donc la décision qui a été prise était une bonne décision. Alors, le conseil, c'est également que le 1er février, le bureau de la direction technologie a fait une proposition pour terminer ce retard de roulement. Et donc, il y aurait un roulement en octobre de cette année. Et donc, c'est là que j'en arrive à mon premier commentaire du point de vue de notre unité constitutive. Dans la proposition qui est ressortie du bureau CTO Technologie, une des choses qui a été dite, c'est que dans le cadre de la recherche qui a été faite la première fois, la première série, et ça c'est vraiment la diligence raisonnable du CTO, en fait, ils ne savent toujours pas quel va être l'impact de ce roulement. Ils ne savent pas quel va être l'effet. Et pourtant, en fait, sans connaître vraiment l'ampleur des problèmes qui pourraient résulter de ce roulement de clés, la proposition est quand même d'aller de l'avant, que le moment est venu. Et donc, notre question, la question que nous nous posons, c'est quelle est la logique dans tout ceci? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, alors qu'on ne sait pas vraiment quelles seront les implications? Dans un document court que le bureau de direction technologique a publié pour commentaire public, ce que l'on voit, c'est une discussion par rapport à la recherche qui a été effectuée. Et puis finalement, on n'a pas vraiment de nouvelles informations, on ne connaît pas l'ampleur, les problèmes, on ne sait pas ce qui va se passer lorsqu'on fera le lancement, le roulement. Mais on va y aller quand même. Et donc, c'est ça qui est proposé. Alors, dans la section 2 de la proposition, c'est ce qui est vraiment bizarre du point de vue technique, c'est qu'il est suggéré que la recherche qui a été effectuée n'avait pas identifié de seuil au niveau duquel on interromprait le roulement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce roulement? En fait, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas d'outils de mesure. Donc, ce que nous pensons, c'est que s'il n'y a aucun chiffre qui vous arrête, eh bien, il n'y a pas non plus de chiffres qui vous permettent de commencer. Alors, je vais être très honnête avec vous. Tout ceci, ce sont des commentaires qui doivent venir de la communauté FSI et qui vont passer par la période de commentaires publics. Et c'est ce qui va se passer et tout va bien. Mais en tant que FSI, nous avons nos doutes par rapport au fait que le roulement doive se passer parce qu'il n'y a pas de données qui vraiment soutiennent la notion comme quoi il n'y aura pas d'interruption de service. Il est tout à fait possible que les interruptions de service soient limitées ou qu'elles soient très importantes. Il est tout à fait possible que tout soit très bien configuré. Mais en fait, on ne sait pas. Et donc, le bureau technologie a tout simplement... Et pourtant, c'est des gens auxquels nous faisons confiance. Mais donc, nous voyons que vous avez fait davantage de recherches. Et pourtant, parce que nous, c'est notre téléphone qui va sonner. Donc, la communauté des FSI regarde un petit peu le document qui nous a été donné. Et nous ne voyons rien dans ce document qui nous motive à vraiment soutenir cette poussée de l'avant. Alors, par rapport à cette proposition du 1er février sur le roulement, j'aimerais attirer l'attention du Conseil sur d'autres problèmes de plus haut niveau. Ce sont des problèmes qui ressortent de la recherche, du CTO, du Bureau Technologie. Et donc, je vais poser la question à David ainsi qu'au Conseil. Ce qu'a fait le CTO, c'est d'engager énormément de recherches dans ce domaine. Beaucoup de recherches. Parce que la recherche régionale qui a eu lieu a en fait entraîné le retard initial. Par conséquent, l'idée c'est d'essayer de voir quelle est l'ampleur du problème. Mais comme je vous le disais, donc, on ne sait toujours pas. Alors, une des choses qu'a fait le Bureau de technologie dans le cadre de cette recherche, c'est qu'il a collecté beaucoup de données. Et à la base, par principe, lorsque l'ICANN collecte des données, eh bien, ces données devraient être mises à disposition de la communauté. Voilà, je vais être très claire là-dessus. Lorsque l'ICANN collecte des données et qu'il n'y a pas d'obligation contractuelle, les données doivent être disponibles. Il faut absolument que ce soit une obligation, que ces données soient publiques pour que les scientifiques, la communauté FSI, la communauté connectivité, toutes les FSI puissent vraiment lire ces données. C'est un principe de base qui va au-delà des recherches du bureau technologie. Et ça, je le répète tout le temps, lorsque l'ICANN collecte des données, que ce soit le résultat du travail qui a été fait dans tel ou tel domaine, ça appartient à la communauté, ça n'appartient pas à l'ICANN. Alors, dans ce cas précis, la communauté des FSI a vraiment un sentiment très fort par rapport à ça. Les données de recherche sont le résultat des recherches effectuées sur les résolveurs, donc ils doivent être disponibles pour la communauté. C'est un principe de base. C'est un principe qui dépend du Conseil. Ce n'est pas simplement le bureau de David, c'est la communauté en général. C'est ça, toutes les données collectées. Nous comprenons bien qu'il y a certaines questions juridiques, certaines questions contractuelles, etc. Et deuxième problème au niveau du Conseil, en plus de cette disponibilité des données, ce qu'a fait le bureau technologie, c'est qu'il a rendu public un plan de relancement du roulement de clés. Très bien. Mais ce qui se passe également au bureau technologie, c'est que nous voyons de plus en plus de choses qui ressortent, des initiatives importantes qui ressortent. Et ce que l'on aimerait voir, c'est davantage de ces initiatives qui soient plus transparentes, en fait, qui soient plus ouvertes à commentaires et à examen. Alors, deux choses. Premièrement, accès public aux données clés. Et donc, deuxièmement, davantage de transparence publique sur les initiatives intéressantes prises par le bureau technologie. Nouvel intervenant au micro. Donc, on va passer la parole à Yoran d'abord. Yoran au micro. Par rapport au premier point, par rapport au KSK, donc l'idée, c'est de ne pas casser l'Internet, hein, pour qu'on n'ait pas de problème avec le RGPD. Donc, une des choses dont on parle de plus en plus, David n'a plus de voix, donc je l'aide. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir qui utilise les services, déjà. Et donc, personnellement, je pense que c'est une discussion qui doit avoir lieu avec le SSAC et le RSAC, avec en fait la partie technique de la communauté, pour voir s'il y a des choses à faire, si on peut faire certaines choses pour que l'interaction soit meilleure, pour connaître un peu le point de vue des utilisateurs, pour ne pas avoir de problème au niveau de la KSK. Autre chose, il y a un processus qui a été lancé il y a un an à peu près, le ODI, sur les données ouvertes. Et donc, vous avez entendu le rapport, vous avez vu le rapport. Et donc, dans mes objectifs, du point de vue du Conseil, un de mes objectifs, du point de vue du Conseil, c'est donc que nous communiquions tout ce qui est important. Mais la première chose, c'est déjà d'avoir une stratégie. Et après, de voir ce qui peut être publié. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des manquements en matière de transparence. Mais vous savez, sur ICANN.org, c'est très compliqué de trouver les choses. Nous sommes en phase de mise en place d'un système de gestion des documents parce qu'il y a ça aussi. Parce que je pense que les informations que vous recherchez ont été publiées, mais elles sont cachées dans le site web ICANN.org. C'est ça aussi. David au micro. Oui, par rapport au point plus précis sur la question de Marc, j'apprécie d'avoir cette opportunité de vous répondre, si j'arrive à parler. En termes de roulement de KSK, la situation est en fait très complexe du point de vue de l'ICANN. Étant donné que nous avons retardé ce roulement de KSK en septembre, nous avons en fait posé la question à la communauté technique sur la liste de diffusion des participants au roulement de KSK. Et donc, on a posé cette question. Et le consensus de cette liste de diffusion qui est d'ailleurs ouverte, vous pouvez vous y joindre si vous le souhaitez, n'importe qui peut s'y joindre. Donc la réponse, ça a été que les données que nous recevons, donc il s'agit du RFC 8145 et son implémentation, en fait, ce que cela nous a dit, c'est qu'il y avait espoir, parce que la configuration des résolveurs, pas la configuration des utilisateurs et leur expérience, mais donc que le roulement de clés était possible. Donc, les données que nous recevons, en août de l'année dernière, nous avions reçu une indication comme quoi 5 à 8% des roulements étaient mal configurés. Cela nous a surpris parce que la norme de base de cette implémentation avait été approuvée jusqu'au mois d'avril. Et la première implémentation nous est arrivée en août. Donc en septembre, lorsqu'on a commencé à recevoir ces données, on a été choqués. On s'est dit pourquoi est-ce que les gens mettent ceci en place aussi rapidement. Mais aujourd'hui, si on regarde les données, on est à 20-25% des résolveurs qui sont mal configurés. Et ça, c'est des données qui sont disponibles sur notre site web, sur ican.org. Nous montrons les graphiques, les données que nous recevons par rapport aux données de la racine L. Alors, l'implication, la conclusion de tout ça, n'est pas très claire. Lorsque l'ican.org est perdu, eh bien, nous demandons à la communauté de nous aider à comprendre et à voir ce qu'il faut faire. Et en ce qui concerne la liste de diffusion, les points de vue qui nous ont été donnés dans la communauté, et c'est d'ailleurs ce qui existe dans le plan du 1er février, donc les données que nous avons reçues ne nous fournissent pas assez d'informations pour décider de continuer à reporter le roulement de KSK. Et donc, nous pouvons continuer de communiquer au reste du monde que le roulement de clés aura lieu. Alors, une des raisons pour lesquelles les gens de la technique pensent que l'on peut aller de l'avant avec le roulement de la KSK, c'est qu'en fait, il y a eu endommagement du DNS à cause de ce report. D'ailleurs, il y a un blog qui suggère que le DNSSEC, le déploiement du DNSSEC a en fait diminué au cours de l'année et demie, justement au moment du report du roulement. Donc on est passé de 16 à 13% de réduction de la résolution. Et donc certaines personnes pensent qu'il faudrait continuer de reporter le report, mais en fait, cela va avoir un impact négatif sur le DNS. C'est ce que pensent beaucoup d'experts. Donc, nous encourageons fortement les membres de la communauté à nous donner leur point de vue par le biais des commentaires publics, par le biais du plan provisoire, pour qu'on ait davantage de points de vue. À ce moment-là, on pourra modifier le plan de manière appropriée. Donc, la date du 11 octobre 2018 n'est pas fixe. Elle est basée sur le point de vue de la communauté. Le Conseil va s'y pencher, le SAC, le RSAC aussi, et toutes les personnes qui le souhaiteront. Alors, nous avons dépassé de 5 minutes les temps impartis, donc il faudrait conclure là-dessus. Tony, un dernier mot là-dessus ? Tony au micro. Donc, je voulais simplement remercier le Conseil de nous avoir donné cette opportunité. C'est toujours un privilège de travailler là-dessus. Voilà, je voudrais simplement remercier tout le monde. Il y aura nos micros. J'aimerais également vous remercier pour la séance de ce matin. La discussion a été très franche et ouverte. Et j'aimerais vraiment être invitée la prochaine fois aussi parce que j'apprécie beaucoup. Nouveau intervenant. Désolé de ne pas avoir pu répondre aux deux dernières questions, mais nous vous ferons un suivi. Merci beaucoup.